Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et à toutes. Hein. Quatrième rendez-vous cette semaine dans Des clés pour vivre avec au micro pour intervenant, vous le découvrez, Nicolas Sajus, docteur en psychologie et psychothérapeute et expert auprès de la Cour pénale internationale. Alors, on a parlé de l'emprise, du prédateur, tous ces mécanismes. Apprenons aussi à discerner. Je vous propose et je vous salue. Bonjour Nicolas Sajus.
Bonjour Nathalie.
Alors, on va s'arrêter aujourd'hui, et je pense que c'est important d'en parler, ce profil bien spécifique que vous avez décrit depuis le début de la semaine, donc avec ses fantasmes manipulateurs, dominants, personnalité narcissique. Qu'est-ce qui le conduit délibérément à passer à l'acte un jour ?
Alors, il peut y avoir plusieurs motivations, sachant que les actes peuvent être de tous ordres. Ça peut être physiques ou bien en parole. Petit à petit, dans cette construction de coercition psychique, il y a aussi une coercition physique qui se crée, c'est-à-dire que plus la personne va être, en tout cas, dans la dépendance, sous contrôle de l'autre, isolée, progressivement, la personnalité dominante n'a pas de limite interne et dans cette non-limite va se créer le passage à l'acte qui se crée soit parce qu'il y a une tension psychique interne, parce que la personne, en tout cas, elle sait qu'à un moment, elle a le contrôle total sur l'autre et dans l'objetisation de cet autre, il y a le passage à l'acte. Ce passage à l'acte, alors je le redis parce que c'est sans doute la nuance. Il n'est pas fantasmé. La question du fantasme, c'est que ça ne passe pas au réel. Mais là, ça peut être tout ordre de violence, d'enjeux aussi de passage à l'acte sexuel. Pour être très concret, j'ai fait une audience en assise où c'était une jeune fille où il y avait eu des passages à l'acte sexualisés sur elle. L'idée, pour être concret, que les auditeurs comprennent, c'est qu'elle était totalement sous emprise de cette. Il y avait trois personnes en fait, hein, qu'il lui expliquait qu'à un moment, le rapport sexuel lui permettait d'enlever tous les troubles internes. Elle avait des insomnies, elle avait des troubles aussi pour parler. Elle avait des troubles aussi, des cauchemars. Et en tout cas, les auteurs, alors il y avait trois personnes, lui expliquaient que parce qu'il y aurait en tout cas le rapport sexuel, c'est de cette manière-là qu'elle serait guérie. Le rapport vient toujours en lien aussi avec ce qui s'est construit. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait que les personnes, quand on les entend, peuvent dire, mais en tout cas, j'acceptais les choses parce qu'on me disait que ça participait au processus. Et c'est là où il n'y a plus le regard critique ou l'enjeu, en tout cas, de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'ils font ? Parce que le sujet est rendu complètement objet de la relation. Et c'est là où la jouissance maximale, en tout cas, au-delà des mots, est agie. C'est-à-dire que, il peut y avoir des actes de violence. Je vous dis ça parce que, ça, en tout cas, dans les expériences que j'ai eues, et je vous parlais d'assises, ça a pu aller jusqu'à des actes de barbarie, en tout cas, où tout s'autorise.
Ah oui. Y a-t-il des signes avant-coureurs, hein, Nicolas ?
Alors non, parce que le souci qu'il y a par rapport à ce que je vous évoque là, on ne peut pas. Quand je vous parle de système coercitif, on est au-delà de l'emprise. Je pense à une secte aux États-Unis il y a quelques années où le gourou avait demandé à des femmes de s'éviscérer devant lui. Elles s'étaient exécutées. On ne mesure pas, quand on parle d'emprise, jusqu'où cet autre est prêt à aller. Alors, c'est-à-dire qu'à un moment, cet autre répond systématiquement à l'ordre, quoi. Et ça, c'est très difficile. À un moment, quand quelqu'un est vraiment dans ce système où il n'existe plus, c'est-à-dire que le dominant a rempli pleinement le vide interne, la vacuité interne de l'autre, l'autre s'exécute et c'est impressionnant de voir jusqu'où ça peut aller. Je pense à une autre secte qui était dans le sud de la France. C'était alors là sous des valeurs de par exemple d'aider les personnes toxicomanes. C'était des personnes addictes en dépendance. Mais c'était des personnes celles qui, dans l'obéissance, c'est connu, hein, c'est des mécanismes psychiques très connus, elles arrêtaient, par exemple, je me rappelle, de se droguer, du jour au lendemain, parce qu'elles rentraient dans une obéissance. Mais par contre, le gourou se déchaînait sur des violences physiques par la suite. Donc, c'est des enchevêtrements très, très complexes, où là aussi, quand on parle en tout cas, la personne sous emprise est dépossédée d'elle-même, le passage à l'acte peut être, mais d'une violence terrible et dans l'obéissance la plus complète, en fait.
Peut-on empêcher ce passage à l'acte quand on est dans l'entourage proche d'une personne qui semble être dominée par, permettez-moi, j'emploie le mot de prédateur, de dominant, d'une personnalité narcissique hein, qui peut contrôler, qu'on est témoin. Comment intervenir?
Alors déjà, il n'y aura pas de témoins de ça. Les seuls témoins, ce sont
Ah.
les gens qui vivent les mêmes choses, en fait.
Donc
Parce
au
que
sein
je
même
ne
d'un
sais pas.
groupe, hein, un
Ouais,
enfermement du groupe, hein, des
exactement ça.
membres, voilà, on est adepte, on devient adepte.
C'est tout à fait ça.
Oui.
C'est-à-dire que ça rejoint, quand on est dans ces passages-là, l'isolement dans lequel les proches, la famille ne sont jamais au courant. Moi, je vous parle de faits parce que ben, j'ai été expert en France et que c'est des choses qui ont été jugées, condamnées. Mais tout ce que je vous évoque reste dans un huis clos où personne n'en parle. Ça ne sort jamais de ça, en fait. Voilà. Et c'est très difficile à repérer parce que même les personnes qui vivent ça ne l'évoqueront jamais. C'est a posteriori qu'on sait ce qui s'est passé souvent.
Quels sont les facteurs déclencheurs, Nicolas Sajus?
C'est la dépossession souvent hein, de la personne qui est dépossédée d'elle-même. Et le facteur, c'est qu'à un moment, c'est la personne, en tout cas le dominant, qui va de suite exercer son pouvoir, en tout cas sa suprématie sur l'autre, parce qu'il s'autorise tout, que ce soit les coups, les enjeux sexualisés, les enjeux de discrédit, d'humiliation, parce que c'est souvent aussi des enjeux de chaud et de froid, où à un moment, on vient valoriser l'autre, et parce qu'on le valorise. Alors là aussi, je pense aussi à certains processus sectaires où certaines personnes peuvent croire il y a des graduations, elles sont les préférées. Donc elles acceptent de se donner, ou ils acceptent de se donner physiquement, ou acceptent certains enjeux. Voilà. Parce que, en tout cas, c'est une manière d'être préféré. Et après, je le disais, hein, on est sur des personnalités, effectivement, de l'ordre de la prédation, qui relâchent sans cesse des tensions psychiques, qui n'ont aucune limite. Et ça peut partir comme ça, une fois que les personnes sont sous contrôle, en fait.
Alors, ces personnes que l'on décrit aussi comme des prédateurs, hein, personnalités narcissiques, est-ce qu'il y a un chemin de libération, de guérison? Comment sortir de ce schéma à répétition quand on a peut-être fait ce passage à l'acte? Est-ce qu'on peut guérir, je ne parle pas de maladie, mais est-ce qu'on peut guérir de cet état de prédateur, hein, Nicolas Sajus?
Moi, alors après mon parcours professionnel, hein, j'ai passé des années à travailler dans le secteur psychiatrique. Ce mot guérir, ça fait longtemps que je l'ai banni de mon registre parce que on n'est pas dans un registre somatique
Ouais.
comme quand on a une jambe cassée et qu'il faut en tout cas une intervention chirurgicale. C'est parfois dans certains contextes. Alors je pense à un monsieur qui était un grand pédophile, malheureusement, et qui a abusé d'un nombre très très conséquent d'enfants. Ce monsieur, alors il a été jugé, condamné, l'affaire date de 2012. Pour le coup, il est par exemple très conscient de ce qu'il est. Donc il a été incarcéré. Suite à ça, il avait là aussi, il n'avait plus contact aux enfants, par rapport aux enfants, mais il en était lucide de ça et qu'il avait besoin d'une protection. Pour moi, c'est déjà un point positif. Je vous parlais de la situation des trois personnes qui sont passées aux assises tout à l'heure. Ces personnes, tout au long du procès, ont été dans le déni des actes qu'elles ont posés. C'est là où c'est compliqué
Ouais.
parce que même parce qu'il y a un procès, la question, parfois c'est le milieu carcéral qui fera en tout cas la protection parce que voilà, l'enjeu est de la prison et c'est là où nous, en tant qu'experts, on a une question et sur ces problématiques-là, elle est très très compliquée. Là aussi, c'est la question de la récidive.
Eh
Alors,
oui.
et là aussi, on nous prend pour des devins, hein, que ce soit d'ailleurs les médecins psychiatres ou nous, quand on évalue ces personnes au plan psychique, c'est que la question de la récidive, oui, elle se pose largement sur ces personnes parce qu'effectivement, est-ce qu'on guérit de ce qu'ils ont fait? Alors, je vais être clair, dans beaucoup de cas, non, quoi. Et c'est
Ouais.
comment, à un moment, on protège à la fois ces personnes parce qu'il peut y avoir un trouble psychiatrique grave. Mais comment on protège aussi la population aussi?
Donc, comment protéger au fond, hein, protéger le prédateur, hein, qui peut récidiver et protéger les futures proies. Merci pour votre intervention encore, Nicolas Stajus. On vous retrouve demain. Ce sera le dernier entretien avec vous. Merci pour toutes les clés. On apprend aussi à cette vigilance aussi au discernement, la prudence, prudence aussi de la rencontre vers des inconnus, prudence avec les profils peut-être un peu trop charismatiques. Voilà, alors on vous retrouve demain ici même et merci, à demain.
À demain.